Haute fréquence, les religions vues d'en bas.
Vous êtes à l'écoute d'autres fréquences. Nous abordons cette seconde partie d'émission avec vous, Fabien Hunenberger. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous vous êtes intéressé aux activités de vacances mises sur pied par des organisations chrétiennes, en vous demandant notamment quelle part ces organisations réservent-elles à l'expression de la foi dans le programme qu'elles proposent aux jeunes, ce qui pose évidemment au passage la question des délimitations entre les activités religieuses et une offre de loisirs dit grand public.
Oui, on va s'y intéresser. Effectivement. On va partir d'un cas pratique, un cas concret qui séduit un nombre croissant de jeunes romans depuis quelques années. On parle de 2500 enfants pour l'édition 2016. Il s'agit des Kids Games.
Alors des Kids Games qui ont eu lieu au mois d'août dernier.
Oui, effectivement, c'était alors du 7 au 12 août pour être précis. Des Kids Games qui ont démarré par une cérémonie romande. Ça s'est passé à Neuchâtel, à la patinoire du littoral, avant de se poursuivre dans les jours qui ont suivi en différents lieux de Suisse romande. Il y en avait 16, sauf erreur. Alors, c'est une offre qui est destinée à la tranche d'âge des 7-14 ans, qui est portée en termes d'organisation par plusieurs organisations chrétiennes. Parmi elles, un noyau dur d'organisations évangéliques, l'Armée du Salut, la Ligue pour la lecture de la Bible, la Fondation du Grain de Blé. Je n'en cite que quelques-unes, elles sont une douzaine. Notons qu'il y a également parmi elles des organisations liées à l'Église réformée et à l'Église catholique.
Avec une identité chrétienne qu'on repère également, je suppose, dans le programme des activités.
Alors en partie, oui. C'est-à-dire qu'en plus des jeux de balles, des courses de relais, les enfants sont invités à chanter des chants chrétiens, à assister à des enseignements religieux. Mais on va dire, pour comprendre plus précisément comment se mélangent ces différentes composantes dans la formule Kids Games, Marie-Claude Cudry a accompagné les participants d'un de ces 16 camps Kids Games qui ont eu lieu cette année. Alors c'est celui de Lausanne en l'occurrence, mais on va commencer par cette fameuse cérémonie d'ouverture commune pour toute la Suisse romande qui avait lieu à Neuchâtel. On est à la patinoire du littoral le 7 août, 2500 enfants y sont réunis.
On a fait le pari un peu fou de réunir toutes les régions des Kids Games aujourd'hui pour partir tous ensemble comme une seule équipe dans cette semaine. Pendant 6 jours, vous apprendrez à vous connaître avec vos forces et avec vos faiblesses, avec votre courage, mais aussi avec vos peurs. Aujourd'hui, dans cette patinoire, nous sommes l'équipe des Kids Games, une équipe qui met sa confiance dans un même Dieu. C'est à cause de lui et grâce à lui que nous organisons et que nous vivons ces Kids Games. Alors, comme premier défi de la semaine, je vous invite à faire un monstre silence. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour chaque enfant présent ici cet après-midi, pour chaque coach et chaque head coach, pour chaque famille représentée, bénis-nous et garde-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
5, 4, 3, 2, 1,
Père de Père. Veille un box officiel, veille un box officiel, veille un box officiel. Allez, allez, vite, 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 après c'est à vous. Allez, la grenouille, ouais, super.
Nous, on s'appelle les Firefox officiels.
Qui a choisi ce nom ?
Alors, c'est les enfants qui ont proposé. On est l'équipe orange, du coup, on trouvait que ça allait bien.
Je peux juste vous demander votre prénom ?
Oui, je m'appelle Océane.
Très bien. C'est la première fois que vous participez à ces Olympiades ?
Alors, moi, j'ai commencé quand j'avais 6 ans, je pense. Non, 7 ans, quand j'ai fait toutes les années. Et puis, ça fait 3 ans maintenant que je suis coach.
Et qu'est-ce que vous trouvez dans ces Kids Games ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Déjà de la joie, vraiment, c'est incroyable. Tout le monde est toujours souriant, on s'amuse. Il y a une bonne ambiance entre tout le monde. Et puis, en fait, de voir qu'ils peuvent aussi être dans une même équipe, s'encourager et puis gagner ensemble et aussi être dans la défaite ensemble et s'encourager, franchement, c'est incroyable. Et puis, moi, c'est la semaine que j'attends tous les 2 ans parce que c'est que du plaisir et puis, ouais, vraiment super.
Est-ce que l'équipe 9 est prête ? L'équipe 9, est-ce qu'elle est prête ? Non ? Ok. L'équipe 10 est prête ? Ok. L'équipe 11, est-ce qu'elle est prête ?
Ça a commencé à Barcelone.
Emmanuel Schmid, diacre de l'église réformée vaudoise et président des Kids Games en Suisse romande.
Une initiative d'une dame qui s'est dit on va organiser des jeux tout simples pour réunir des enfants de quartiers pauvres tout en transmettant les valeurs de l'évangile. Et puis ensuite, l'idée a été reprise 2 ans plus tard et les premières Olympiades, les premiers Kids Games vraiment ont démarré en Égypte selon ce principe-là de faire des jeux simples et de transmettre les valeurs de l'évangile. Et puis ensuite, c'est arrivé en 2004 avec toute une série d'associations, d'églises et d'institutions chrétiennes qui sont mises ensemble pour organiser ces premiers Kids Games.
Ces Kids Games, ces Olympiades s'adressent aux enfants. Là, on vous a rejoint aujourd'hui à Lausanne. Vous êtes combien ?
À Lausanne, on est 175 enfants, entre 7 et 14 ans.
Et sur toute la Suisse romande, ça représente combien d'enfants ?
2200 enfants répartis sur 16 régions suisses romandes.
Toutes les églises sont représentées ?
Toutes les églises, c'est difficile à dire, toutes les églises. Mais en tout cas, sur le canton de Vaud, il y a l'église protestante qui est représentée. Il y a les principales fédérations des églises évangéliques. Il y a l'armée du salut, enfin plein d'institutions. Le monde évangélique est bien représenté. Et au niveau catholique, c'est le MADEP qui représente l'aile catholique en fait. Le financement est organisé par les institutions qui nous soutiennent. Il y a donc 12 institutions ou fédérations d'églises qui nous soutiennent. On a des soutiens des collectivités publiques qui nous mettent à disposition en général les infrastructures. Et puis on a des dons privés ou des dons de sponsors qui nous aident aussi à organiser ça et d'offrir la semaine à un prix vraiment accessible. On est entre 60 francs et 75 francs la semaine pour chaque enfant. Les Kids Games se déroulent en 2 temps forts. C'est le matin qu'on appelle ça découverte biblique, où on découvre une histoire biblique et puis on travaille autour des valeurs que cette histoire nous suggère. Et puis on chante aussi beaucoup aux Kids Games, avec des chants qui portent ces mêmes valeurs qu'on essaie de transmettre au travers des histoires. Et puis on joue, on fait vraiment des jeux où on essaie d'apprendre par l'expérience, on crée une dynamique au travers du jeu et puis réfléchir sur la dynamique qui s'est vécue dans l'équipe. Alors ça c'est pour les matins, et puis l'après-midi c'est vraiment les tournois de sport traditionnels, mais justement pas avec des sports traditionnels, des sports qui permettent vraiment de développer la cohésion d'équipe et puis de faire équipe, en fait, d'unir les équipes.
Je reconnais qu'en tant que coach, je dois veiller à entretenir des rapports respectueux avec les membres de l'équipe dont je suis responsable. Je sais le pouvoir et l'influence qui me sont conférés par ma position. Je suis conscient du rapport de dépendance qui existe entre moi et les personnes qui me sont confiées. Je m'engage à ne pas exploiter ce rapport de dépendance et à me préoccuper prioritairement du bien-être, de la santé, de la dignité et du développement harmonieux et autonome de tous les membres du groupe. Enfin, reconnaissant que l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, je m'engage, avec ma sensibilité propre, à en être témoin.
On ne fait pas de prosélytisme dans le sens qu'on ne va pas obliger les enfants à croire. On n'est pas dans l'ordre de convaincre l'enfant, on est dans l'ordre du témoignage. Et pour moi, le témoignage, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être un témoin. Et pour moi, c'est la différence entre partager de l'évangile ou faire vraiment du prosélytisme actif ou agressif. Et ça, pour moi, ce qui garantit cette sorte de témoignage de l'évangile, de notre foi chrétienne, parce que oui, ça on ne la cache pas, hein. Tous nos documents disent qu'on fait quelque chose de chrétien, qu'on partage le message de la Bible, qu'on partage le message de l'évangile, c'est le fait qu'on soit plusieurs églises représentées. Voilà. Les personnes qui tirent pour dire non, ces enfants, j'en veux les prendre chez moi. Et l'autre chose, c'est que les parents, c'est surtout les parents qui nous font confiance. Et je dois dire que ce n'est pas des parents forcément qui viennent d'église ou qui vont à l'église tous les dimanches qui envoient leurs enfants. Il y a vraiment des parents qui ne sont pas chrétiens engagés et qui apprécient que leurs enfants, pendant une semaine, entendent un message d'évangile et surtout les valeurs que ça véhicule. Il y a même des familles de confession musulmane qui viennent depuis plusieurs années et qui ont plaisir à être là, et même un qui est devenu coach à force de venir, donc voilà.
On va écouter une histoire. Et après, il y aura le temps de mini-groupe, comme hier, et après, on va rechanter un chant, et après, on mange.
Mais on n'a pas pris du pique-nique ?
Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un repas chaud, tout le monde mange ensemble.
Il y a du porc ?
Non, il n'y a pas du porc. T'inquiète pas. On va à la table, à notre table, à signer.
J'aime beaucoup la banane.
La chance qu'on a dans cette édition ici à Lausanne, c'est qu'on a trois jeunes, trois coachs qu'on appelle, qui gèrent une équipe d'environ 10 à 12 enfants. Et ça permet vraiment de donner une attention pour des enfants qui seraient plus compliqués, on va dire, dans leur caractère ou dans leur réaction. Et je pense que l'apport des matins, c'est vrai que les matins, on essaie de voir des histoires bibliques avec des valeurs comme le pardon, comme l'amour, comme le respect. C'est des choses sur lesquelles on essaie de rebondir aussi dans les sports. Vraiment, c'est un des principes des Kids Games et visiblement, ça fonctionne. Un petit bout, en tout cas.
Alors, ce qui compte, c'est aussi l'attitude. On peut faire beaucoup de belles choses quand on a l'amour qui vient d'en haut. Cet amour inconditionnel, ça change tout. Parce que cet amour vient de Dieu. Et on doit penser à ça. Quand on a quelqu'un en face de nous, on doit se rappeler que cette personne est aimée par Dieu, comme moi je le suis. D'accord ?
Qu'est-ce que vous avez vécu cette semaine ?
Moi j'ai bien aimé. On a fait des jeux, on a appris des versets bibliques, des moments ensemble pour parler de la Bible et tout ça. On a fait plein de jeux. Quand on joue, l'important c'est de participer.
Moi, c'est surtout l'esprit d'équipe aussi qui m'a plu parce que là, il y a tout le monde qui est avec tout le monde. Enfin, il n'y a pas de critique si on n'arrive pas. C'est pas grave, puis c'est ce qui est bien.
Ce qui est bien, c'est qu'il y avait plein de gens que je connaissais. Il y avait aussi plein de gens de mon église et puis voilà.
Qu'est-ce que tu retiens justement de ces moments où vous avez parlé de Jésus, vous avez parlé de Dieu, vous avez parlé de certaines valeurs? Qu'est-ce que tu retiens, toi?
J'ai retenu des versets de la Bible.
Par cœur?
Certains, oui.
Tu peux m'en dire un?
Prends courage et tiens bon, car moi, le Seigneur ton Dieu, ne crains rien, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai là partout où tu iras.
Vous écoutez Haute Fréquence qui s'intéresse ce soir au Kids Game avec ce reportage à Lausanne que nous venons d'entendre et signé Marie-Claude Cudry. Un exemple de ce qui se fait actuellement en matière de camps mis sur pied par des organisations religieuses. Alors Fabien, vous avez souhaité pousser un peu plus loin l'examen de ce mélange entre activité religieuse et activité ludique. Et vous vous êtes rendu compte que la pratique de certaines organisations, notamment de quelques-unes de celles qui organisent les Kids Games, ont fait l'objet de remises en cause publiques par des instances de subventionnement des activités de jeunesse.
Oui, en effet. Alors, je citais au début de reportage quelques-unes des organisations partenaires de Kids Games, l'Armée du Salut, la Ligue pour la lecture de la Bible, la Fondation du Grain de Blé. Ces organisations sont très actives dans le domaine des activités pour la jeunesse, mais ces organisations et une douzaine d'autres se sont vues refuser en 2014 les subventions qu'elles touchaient jusqu'alors auprès de l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS. On parle d'un montant total d'environ 600 000 francs, donc ça n'est pas rien. Une interruption de subvention de l'OFAS qui est liée précisément à la manière dont elles intègrent la dimension religieuse dans leur offre de camp pour la jeunesse.
Mais alors qu'est-ce qu'on leur reproche? De faire du prosélytisme?
Alors attention avec les mots, prosélytisme c'est très connoté.
Terme piégé.
Alors soyons précis, ce qu'on leur reproche c'est d'avoir une approche des camps de jeunesse trop axée sur des buts de diffusion de la foi. Et ça c'est incompatible avec la législation actuelle, la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse. Mais on va dire, pour comprendre plus précisément encore les enjeux de cette affaire, je vous propose d'entendre l'entretien que m'a accordé Ludwig Gertner. Il est responsable de l'unité famille, génération, société à l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFAS. Et il revient pour commencer sur un changement de loi qui s'est opéré en 2013 et qui est à l'origine de cette affaire.
En 2013, il y a une nouvelle loi pour l'encouragement des activités extrascolaires et entrée en vigueur. C'était donc une raison de regarder de nouveau ou en profondeur ce que font ces organisations. Maintenant, c'est clair, nous, on se bat sur des critères de la loi et on a dû constater qu'il y a certaines organisations qui ne rentrent pas dans ces critères. On a dû interrompre pour cette raison-là les subventions.
Qu'est-ce qui pose problème dans la dimension religieuse des activités proposées par ces organisations ?
C'est pas la dimension religieuse en soi qui pose problème, mais pour répondre à la question, il faut quelques mots dans quel cadre aussi la loi s'insère. Il y a un débat plus large sur les droits de l'enfant et son développement. La Suisse a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant en 1997. La loi s'inscrit vraiment dans cette logique-là, et la convention met les intérêts de chaque enfant individuel au centre. Chaque enfant a ses besoins et ses potentiels, et il s'agit de tenir compte de ses besoins et de soutenir l'enfant pour qu'il puisse développer au mieux ses potentiels. La loi est tout à fait dans cette logique-là. Maintenant, pour les organisations, ça veut dire qu'ils doivent aussi reprendre cette orientation, et c'était ça qui posait problème. Donc, s'il y a des organisations qui mettent pas l'enfant au centre, mais les exigences ou les besoins de l'organisation, ça, ça va pas. Donc, mettre les buts de l'organisation au-dessus des besoins de l'enfant, ça, ça va pas.
Plusieurs organisations qui ont contesté la décision de l'OFAS ont souligné le fait que dans leur offre, deux dimensions se superposaient, deux objectifs se superposaient, le développement de l'enfant et la diffusion d'une croyance, et que dans le fond, cette conjugaison d'objectifs ne posait à leurs yeux pas de problème et rentrait à leurs yeux de nouveau dans le cadre des critères fixés par l'OFAS. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce double objectif qu'affirment ces organisations?
Je dirais que c'est vraiment une question de priorité. Il n'y a pas de problème si une organisation religieuse dit « voilà, ça c'est notre fond, nous nous faisons du travail avec des enfants, avec des jeunes, on met au centre le besoin des jeunes, mais sur le fond, en quelque sorte, de nos convictions. Il n'y a aucun problème avec ça. Si une organisation, par contre, met au centre ses activités, faire de la mission et aussi veut utiliser les enfants pour faire la mission, ça, c'est plus couvert par la loi. »
S'il y a subordination, si j'ose dire, de l'objectif pédagogique à un objectif plus large qui est religieux, là, ça pose problème.
Voilà, ça pose problème, oui.
Quels sont les moyens dont dispose l'OFAS pour évaluer si une organisation instrumentalise ou subordonne ses activités pédagogiques à un objectif plus large qui serait religieux ?
C'est relativement simple, c'est qu'on étudie les documents qui les organisations mettent à disposition sur Internet, etc. Pour les camps de vacances, par exemple, on regarde qu'est-ce qu'ils font, quels sont les buts, etc. Donc là, c'est relativement simple. Et puis vous voyez très vite, dans certaines organisations, que le but n'est pas le développement des enfants proprement dit, mais c'est le but de l'organisation.
Ce qui veut dire que vous n'allez pas concrètement dans ces camps, vous ne mandatez pas d'experts ou de personnes qui iraient regarder comment ça se déroule sur le terrain. Ça se joue sur des documents, des rapports, des sites internet.
Oui, d'ailleurs, c'est des organisations qui ont exigé qu'on aille voir dans la procédure juridique devant le tribunal. Ils ont exigé ça. Le tribunal, il a jugé que c'était très clair par les documents, donc c'était pas nécessaire d'aller sur place.
Alors, certaines organisations disent qu'il y a un malentendu. Nos documents sont anciens, ils mettent en avant la dimension religieuse, mais si on va sur le terrain, on voit que les enfants sont respectés dans leurs croyances, dans leur liberté de choix, etc. Cette idée qu'il y a un malentendu, comment est-ce que vous l'entendez ?
Difficile à dire. Si c'est le cas, c'est alors urgent et super urgent que ces organisations adaptent leur matériel, parce que c'est un matériel qui est utilisé, et j'ai un petit peu de la peine à croire qu'ils utilisent un matériel, je dirais, outdated, pour les cours que concrètement, par exemple, pour les responsables qu'ils donnent. Même si c'est le cas, il y a quelque chose à faire pour ces organisations pour que, ma foi, ils adaptent leur matériel, que vraiment, ils mettent au centre l'intérêt de l'enfant.
Le réseau évangélique suisse a mis sur pied et proposé à ses membres une charte qui a été présentée au mois de mai de cette année. Qu'est-ce que vous pensez de cette charte ? Est-ce qu'elle est suffisante pour rentrer dans les critères de la loi ?
Alors, très clairement, la charte a vraiment le mérite d'avoir repris les buts et les critères de la loi, ce qui est en soi très positif. Donc, quelqu'un ou un groupe a vraiment s'est posé la question « qu'est-ce que veut la loi ?» Mais maintenant, il suffit pas de signer cette charte et croire que voilà, maintenant c'est fait. Il faut vraiment mettre en œuvre la charte, hein, dans la pratique, justement adapter tout le matériel, adapter aussi, je veux dire, l'organisation des camps en fonction, etc. Donc il y a tout un travail à faire. Mais la charte en soi, c'est un pas positif, parce que justement, on a étudié la loi, puis on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?
Est-ce qu'il y a certains types d'activités qui vous semblent plus à risque que d'autres en matière de risque de prosélytisme ou de subordination, encore une fois, des objectifs pédagogiques à des objectifs religieux ? Je ne sais pas, par exemple, la présence de moments de prière ou de chants à caractère religieux. Est-ce qu'il y a une liste d'activités à risque de votre point de vue ?
Non, c'est pas si simple que ça. Encore une fois, il y a rien à dire si une organisation se base sur un fondement religieux et travaille avec des jeunes. Un lieu de prière a sa place, doit avoir sa place. C'est peut-être une question plutôt de combien d'espace il y a ces prières. Est-ce qu'il y a dans la pratique de tous les jours, dans un camp par exemple, est-ce qu'il y a vraiment suffisamment de temps où justement les enfants et les jeunes ont le temps pour eux, peuvent eux-mêmes être créatifs, etc., sans être soumis à un ordre très strict, etc. Donc, dans la pratique, c'est pas noir-blanc, et c'est une question de combien on fait, etc.
Ludwig Gertner, responsable de l'unité famille, génération, société à l'Office fédéral des assurances sociales. Fabien, on l'entendait tout à l'heure évoquer les réponses des tribunaux. Ça signifie qu'il y a eu des actions en justice contre ces décisions?
Tout à fait. Certaines des organisations ont fait recours jusqu'au tribunal administratif fédéral. Elles ont été déboutées jusqu'ici. Alors, théoriquement, elles peuvent continuer à faire des demandes chaque année, donc de subventionnement, et en cas de refus, eh bien retourner en justice, mais elle semble avoir opté pour l'heure pour une défense plus collective, et moins juridique, peut-être plus médiatique aussi, via notamment le réseau évangélique suisse dont elles font partie. Une réponse qui a pris la forme d'une charte, enfin document qu'on a mentionné tout à l'heure dans l'interview de Ludwig Gertner.
Pour défendre l'idée que les activités religieuses peuvent avoir leur place dans un programme d'activité qui est subventionné.
Oui, en précisant qu'il s'agit là, on va dire, d'une conséquence d'un des arguments plus fondamentaux que défend aujourd'hui le réseau évangélique, à savoir que le fait que ce qui prime en fait c'est le développement harmonieux de l'enfant et que pour atteindre ce développement harmonieux, eh bien les activités religieuses, entre autres activités, eh bien elles peuvent y contribuer. Ça c'est vraiment un des éléments centraux. Le religieux est constitutif de l'éducation. Voilà, ça c'est leur idée. Mais pour entrer peut-être plus en détail dans cette posture des membres du réseau évangélique, eh bien je vous propose d'entendre Michael Mutzner, qui est secrétaire général du réseau évangélique suisse. Alors, il commence bien sûr par réagir aux décisions que l'OFAS avait prises en 2014.
On a regretté cette décision qui a affecté une bonne douzaine d'associations chrétiennes. Moi, je crois que ce raisonnement ne correspond pas à la réalité. Les activités du camp, par exemple, ne sont pas là dans le but uniquement de permettre à ce qu'ensuite on puisse thématiser la foi et permettre aux jeunes d'être confrontés à la spiritualité chrétienne. Quand on organise une activité sportive, c'est une fin en soi. On veut que cette activité sportive soit épanouissante, soit bien faite. Et puis voilà. Et si à la fin le jeune a eu du plaisir, eh ben pour nous c'est super. C'est pas juste de vouloir dire que tout pointe vers un désir de convertir les jeunes. Ça donne un petit peu l'impression que le jeune est une proie et que nous on est là en mode attaque, chercher le moment où la faille, etc. Et je crois que ça correspond vraiment pas à la réalité de ce qu'on veut vivre. Moi-même, j'ai l'occasion d'être responsable de camps, et après un camp, vous avez des parents, des jeunes qui vous disent ben, « mon jeune a participé à un camp et il est revenu avec une meilleure attitude dans la famille, on a réussi à se parler », ou « mon jeune, il est venu avec beaucoup de questions, il est reparti avec certaines réponses qui l'aident dans sa vie, qui l'apaisent ». Eh bien, moi, je me réjouis. Donc, je pense que la dimension spirituelle, elle apporte quelque chose de positif. Mais en même temps, c'est pas la seule. Et si un jeune arrive à s'intégrer dans une ambiance de camp, là où à l'école, il est peut-être mis à l'écart, eh bien, pour nous, c'est génial. On est content. Donc, voilà, je sais pas quelles seront les décisions que ces organisations concernées vont prendre maintenant pour la suite, si elles souhaitent encore aller un pas plus loin ou pas. En principe, la porte reste ouverte à l'OFAS pour continuer de déposer des demandes de subventions. Simplement, on a regretté une décision qui nous a peut-être pas forcément semblé fondée ni basée suffisamment sur une enquête approfondie qui correspondrait à la réalité. Donc on a l'impression d'avoir été un petit peu mal compris dans cette affaire. Et donc j'espère que cette situation va rapidement évoluer et qu'à l'avenir, un certain nombre de ces œuvres, toutes ces œuvres concernées, puissent à nouveau bénéficier de ces subventions fédérales. Il me semble que ça serait juste.
Et par rapport à la charte, vous espérez que cette charte soit reconnue, si par exemple une association ou une organisation adhère et applique cette charte?
Oui, je pense que la charte, c'est un outil dans ce sens-là, dans ce but-là, de montrer effectivement qu'on respecte certains principes, certaines valeurs, certaines règles de comportement dans ces activités-là. Puisque l'OFAS a dit que dans les documents de base des organisations chrétiennes, ben, la situation n'était pas très claire selon eux. On a espéré qu'avec ce document, on puisse clarifier un petit peu nos objectifs, notre manière de fonctionner.
Comment est-ce que vous définiriez la limite à ne pas dépasser dans l'expression de la foi et là où ça devient du prosélytisme?
Ben, je dirais Tout d'abord, c'est vrai que la liberté de partager ses convictions, ça fait partie de la liberté religieuse. Donc c'est quelque chose qu'on a le droit de faire, c'est quelque chose qui peut être une bonne chose même. Hein. Ça permet aux gens de connaître ce que les personnes croient, ça leur permet de se construire leurs propres croyances. Après, c'est vrai qu'il y a une limite à ce droit de partager ses croyances, et cette limite, c'est notamment la liberté d'autrui, y compris sa liberté de croyance. Donc c'est sûr que s'il commence à y avoir des méthodes manipulatrices, on rentre dans du prosélytisme. Pour nous, on considère qu'il faut tenir compte de plusieurs choses. Par exemple, quelle est la relation entre la personne qui s'exprime et la personne qui reçoit le message? S'il y a une relation d'autorité. De la même manière, si on s'adresse à ce qu'on appelle un auditoire captif, donc des gens qui n'auraient peut-être pas forcément choisi d'être là pour entendre un message, eh bien, on ne va pas profiter de cette occasion pour leur annoncer un message qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Le tribunal fédéral a dit aussi on a le droit de partager ses croyances dans la rue, mais si quelqu'un dit « je ne suis pas intéressé », vous devez le respecter. Et à partir du moment où vous ne respectez pas le refus d'une personne, vous entrez dans le prosélytisme.
Si on particularise maintenant et qu'on s'intéresse aux offres pour la jeunesse, donc les camps organisés par des organisations religieuses pour la jeunesse, typiquement, où serait la frontière dans ce cas-là? Quel genre de choses on peut faire et quel genre de choses on ne peut pas faire?
J'irais, dans le cas de la jeunesse, il y a un autre acteur supplémentaire qui rentre en compte. Déjà, c'est les parents. C'est eux qui ont la responsabilité principale de déterminer quelle est l'éducation religieuse de leurs enfants. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Ensuite, pour ce qui est des enfants et des jeunes, il faut tenir compte de l'évolution de leur capacité, de leur âge. Mais je crois qu'on peut vraiment considérer l'enfant, le jeune, comme une personne qui est quand même capable de se déterminer, qui est capable de faire des choix. Donc, voilà, quand on est confronté à un enfant, on sait que c'est pas simple de le forcer à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. Il faut savoir présenter les choses d'une manière qui le laisse libre, mais sans oublier qu'il a la capacité de dire oui ou non. Et le fait de lui présenter une réponse possible à certaines des questions qu'il peut se poser va lui permettre de se construire. Soit il va dire « bah oui, c'est ça, ça me semble logique », soit il va peut-être dire « non, ça me semble pas vraiment logique », et ça va lui permettre d'avancer sur son propre chemin. Et pour nous, ce qui compte, c'est de respecter le chemin que va prendre l'enfant en lui proposant une piste, mais en le laissant après libre d'avancer comme il veut, ou alors en présentant les choses sous forme de questions, et à lui de trouver aussi les réponses qui lui semblent justes.
Est-ce qu'il n'y a pas certains types d'activités qui sont plus à risque, si je peux parler comme ça, que d'autres? Je ne sais pas, si on organise des activités sportives, bon, on imagine que c'est assez anodin, même si ça peut avoir pour l'organisateur un sens spirituel. Mais si on organise une prière, par exemple, ou je ne sais pas, une confession, ou des chants religieux, on est dans quelque chose de plus typé, est-ce qu'il n'y a pas un risque plus grand?
Oui, c'est vrai qu'il y a des activités qui sont plus à risque, effectivement, et je crois que c'est important d'en tenir compte. On peut assister à des phénomènes de groupe, on peut assister effectivement à des situations où quelqu'un va peut-être se retrouver entraîné à imiter ou avoir l'impression qu'il sera mieux accepté ou des choses comme ça. Mais je crois que nous, on essaie vraiment de faire attention à ça, d'une part à faire comprendre aux jeunes ou à l'enfant qu'il est vraiment respecté dans qui il est, que ça changerait à la considération qu'on aura pour lui. Et d'autre part, je dirais, une décision qui serait prise par un enfant ou un jeune pour des mauvaises raisons sera peut-être aussi une décision qui ne tiendra pas forcément très longtemps. Donc quelqu'un qui, par mimétisme ou dans un phénomène de groupe, etc., prendrait une décision parce qu'il veut faire partie de quelque chose, eh bien, si c'est pas ancré dans quelque chose d'un peu plus profond en lui, je pense qu'une semaine après, sa décision, elle aura déjà changé s'il est dans un autre groupe et attiré par un autre courant ou comme ça, quoi. Donc je suis pas trop inquiet à ce niveau-là.
Au mois de mai de cette année, vous avez rendu public une charte. Est-ce que ça veut dire, le fait d'avoir fait cette charte, que ça n'était pas clair pour tout le monde, les règles que vous venez d'énoncer, que certains avaient besoin de se mettre à jour à ce niveau-là?
Oui, c'était pas forcément clair. Peut-être notre communication aussi n'était pas toujours claire. Le but, c'était de montrer que pour nous, l'épanouissement du participant est une fin en soi aussi. Donc, dans notre offre de camp, il y a effectivement la confrontation à une spiritualité chrétienne. On croit que c'est quelque chose de positif, de bon, qu'on fait vraiment dans le respect du jeune. Mais il y a aussi tout un tas d'autres objectifs qui sont vraiment là, qui sont pas instrumentalisés dans le but de convertir quelqu'un ou des choses comme ça, mais qui sont vraiment une fin en soi. Donc, je crois que c'était important peut-être de bien l'expliquer et de bien expliquer que c'est pas parce qu'on est un camp chrétien que nos objectifs se concentrent uniquement sur la partie spirituelle de l'être humain. On est intéressé au bien-être de l'ensemble de l'être humain.
Ce qui veut dire que concrètement, certains étaient très centrés sur cet objectif principal et unique de vivre une dimension spirituelle dans un camp, par exemple.
Oui, peut-être. C'est vrai que, en tant qu'évangélique, on a aussi appris et évolué, je crois, depuis quelques années, pour mieux comprendre que la foi chrétienne s'adressait à tous les domaines de la vie. Et donc, quand en chrétien, on se sent concerné par le fait que le jeune puisse avoir une bonne relation avec sa famille, qu'il ait un bon comportement en société, des choses comme ça. Alors qu'il y a peut-être eu un moment où on était peut-être davantage concentré sur la dimension spirituelle, où on est la relation avec Dieu de ce jeune, etc. Maintenant, cet élément-là n'a pas été écarté, mais peut-être qu'il s'inscrit davantage dans un contexte plus large, plus holistique, si vous voulez.
Michael Mützner, secrétaire général du réseau évangélique suisse, qui évoquait une nouvelle approche au sein des milieux évangéliques, une approche plus holistique, plus globale que ce qui avait été pratiqué jusqu'ici dans les camps de jeunesse, avec une chance d'être entendu à Berne.
Alors l'histoire le dira, l'Office fédéral des assurances sociales examine actuellement différentes demandes de subventions. On verra si cette nouvelle charte et les modifications adoptées par différentes organisations évangéliques seront suffisantes. On peut ajouter que l'OFAS n'est pas le seul organe qu'il faut convaincre. L'organisation Jeunesse et Sport semble aussi se montrer plus exigeante sur la manière dont l'expression religieuse est articulée avec l'offre d'activité pour la jeunesse. Et on imagine aussi que dans les cantons, voire dans les communes, eh bien cette question des subventions ou des aides logistiques diverses à ces organisations religieuses pour des activités de jeunesse, eh bien c'est aussi une question très sensible.
Merci à vous Fabien pour ce dossier que vous avez préparé avec Marie-Claude Cudry. Si vous souhaitez réagir à ce dossier, laissez-nous un message téléphonique au 058 236 60 70, 058 236 60 70. Et pour réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur notre portail thématique rtsreligion.ch. Mais tout de suite, nous nous interrompons quelques instants pour nous rendre du côté de la...